Bonjour, ravi de vous retrouver dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne à la sauce Inter, en direct ou en podcast sur l'appli France Inter. Bonjour Sabrina Nadjar.
Bonjour Ali.
Rédactrice en chef à Femme Actuelle. Quoi de neuf dans la rubrique Les choses de la vie tout à l'heure, en fin d'émission?
Eh bien écoutez, on s'interroge à la création d'un statut de première dame.
À tout à l'heure Sabrina. Petite question intime, vous êtes plutôt bain ou douche?
Douche.
Bon, alors la France est coupée en deux, les adeptes du bain, émollient à souhait où l'on s'abandonne corps et âme, et ceux qui préfèrent les douches revigorantes et qui remettent les idées en place. Mais ceux qui prennent des douches rêvent parfois de baignoires sabots au beau milieu d'une grande pièce lumineuse, peuplée de plantes tropicales où voisinerait un fauteuil moelleux, un vélo d'appartement, voire, soyons fous, une cabine de sauna, un rêve inaccessible pour la plupart d'entre nous, par manque de place et pour cause évidemment de budget très collé, serré. Ce matin, en partenariat avec le quotidien La Croix, je vous propose d'explorer la salle de bain, ce lieu où se joue le propre et l'intime, l'une des rares pièces où l'on vous fiche vraiment la paix, avec les toilettes évidemment, même si elle constitue en couple ou en famille une source d'agacement. Et pour les parents, c'est une pièce essentielle dans l'apprentissage de l'autonomie des enfants. Et vous, quel rapport entretenez-vous avec votre salle de bain? Votre rapport avec l'hygiène, la vôtre et surtout celle des autres? Comment vos enfants et vos adolescents s'emparent-ils de cet espace intime? En couple ou en famille, la salle de bain est-elle une source de conflit? Et puis, à quoi ressemble la salle de bain de vos rêves? Nous attendons vos questions, réactions et témoignages par courriel grandbienvousfasse@radiofrance.com, sur notre page Facebook et au standard de France Inter. Ulysse et Josué attendent vos coups de fil au 01 45 24 7000. Et puis dans un instant, vous retrouverez les choses vues de notre psychiatre préféré, Christophe André.
France Inter, grand bien vous fasse, Ali Rébéi.
Bon, allez, symphonie-vous de bon cœur et insistez bien sur les pieds.
Le savon et les salles de bain sont là.
Allez-y, franchement.
Qu'est-ce qu'ils ont nos pieds, messieurs?
Je n'en sais rien, ce gueux finasse sans arrêt.
Jacouille, frotte-moi.
Oh, quelle étrange brassoir.
Vous en sortez?
J'ai fini mes ablutions, à toi.
Non, 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 messieurs. Moi, c'était pour la peine. J'ai pris un bain il y a 2 mois dans la rivière.
J'ai fini mon lavement, tu peux y aller.
C'est trop bouillant.
Un extrait des Visiteurs de Jean-Marie Poiré en 1993 avec deux personnages médiévaux qui découvrent les joies de la salle de bain. Nous verrons qu'avant que la salle de bain soit pour nous un réflexe de propreté, nous avons vécu sous le long règne de la saleté. Avec nous ce matin pour explorer les secrets de la salle de bain en partenariat avec La Croix, Georges Vigarello, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'un des plus grands historiens français, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. On vous doit de grands livres.
Beaucoup.
Mais non, mais c'est vrai en plus. On vous doit de grands livres consacrés aux pratiques corporelles, à la beauté, à l'hygiène, comme Le Propre et le Sale, publié chez Point Seuil. Bonjour Monique Eleb.
Bonjour.
Vous êtes psychologue et sociologue, spécialiste de l'habitat, et vous avez publié chez Archibook les 101 mots de l'habitat à l'usage de tous. Bonjour France Le Breton.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à La Croix, et vous publiez ce matin « Devenir soi-même dans la salle de bain », un dossier à lire dans La Croix.
Demain.
Et on s'intéressera avec vous tout à l'heure à l'usage de la salle de bain chez les enfants et les adolescents. Et vous avez beaucoup de questions à poser à nos invités. Monique Eleb, dans la maison idéale des Français, est-ce que la salle de bain occupe une place de choix?
Elle occupe une place de choix dans les esprits, mais pas dans la réalité. Parce que d'abord, la salle de bain en France est très petite, enfin dans les villes. Entre 2 et 3 mètres carrés, dans les maisons individuelles, 8 mètres carrés. Tout le monde rêve d'une grande salle de bain. Alors avec l'arrivée des réglementations pour les personnes à mobilité réduite, la salle de bain va s'agrandir. Bon, mais il y a quand même un patrimoine immense de salles de bain minuscules. Donc les Français dépensent très peu d'argent pour leur salle de bain. Ils aimeraient tous l'améliorer, mais ils ont beaucoup de difficultés à le faire. Ils ne trouvent pas les équipements qui correspondent à la taille de leur salle de bain. Et ce qui est très étonnant, c'est que la salle de bain a extrêmement peu changé depuis la proposition qu'on en faisait pour les classes moyennes, je le dirais, au début du XXe siècle.
Georges Vigarello, 99% des logements sont aujourd'hui dotés d'une salle de bain, mais nous le verrons tout au long de cette émission, la conquête de la propreté a été une longue histoire. Jusqu'au XVIIIe siècle, au moins, l'eau fait peur. Et qu'est-ce qui fait peur ?
Alors, conquête, vous avez raison. Ce qui fait peur, ça apparaît, cette crainte, cette tension, ça apparaît en fait vers la fin du Moyen-Âge. Et c'est lié, apparemment, pas seulement sans doute, mais apparemment, c'est lié à ce sentiment que l'eau pénètre dans le corps, qu'elle ouvre les pores, qu'elle fragilise et qu'elle donc elle offre en quelque sorte le corps aux dangers venus de l'extérieur. L'idée des épidémies, c'est une idée qui se centre sur ce qu'ils appellent le venin de l'air. Et on a cette idée sans laquelle le venin peut pénétrer, vous voyez. Alors, ça joue quand même un rôle relativement fort. Reste que, quand on a dit ça, on n'a pas tout dit. Je pense qu'il y a aussi le fait que l'eau n'est pas très présente. C'est difficile de faire venir de l'eau dans la ville. C'est une immense entreprise d'arriver à faire venir de l'eau qui monte dans les maisons. Ça, c'est un travail considérable que seule la société industrielle peut parvenir à réaliser. Il ne faut pas oublier aussi ce problème. Vous voyez, l'eau est rare. Reste ces deux données. La première, c'est quand même quelque chose qui est l'ordre d'une crainte. La deuxième, c'est celle qui passe par la difficulté et la rareté.
Au Moyen-Âge, les lointains ancêtres de nos salles de bain, ce sont les étuves publiques que l'on ne fréquente pas forcément pour être propre.
Oui, c'est une autre question passionnante, parce qu'effectivement, les étuves sont présentes dans le monde médiéval. Et elles sont présentes pour des raisons qui sont quand même assez proches de la vision ludique. Vous voyez, on va aux étuves pour se détendre, pour échanger. Ce sont des lieux qui assez rapidement deviennent des lieux de prostitution. Ce sont des lieux au fond effervescents. Il y a aussi de la violence. Et ce genre de situation, en quelque sorte troublée, vous voyez, entraîne le fait que les étuves sont progressivement mises à l'écart de la ville. Elles sont un peu sur les marges.
Monique Eleb.
Alors, il y a aussi la question religieuse qu'il faut aborder, parce que il y a l'interdit de se voir nu dans la religion catholique, et donc pendant des siècles, trois ou quatre siècles après les études, etc., on se lave par petits bouts. Donc on se lave dans le noir en général, très souvent avec une robe de bure ou de lin, et donc on trouble l'eau quand on prend un bain par exception, et donc on prend un bain quand c'est prescrit par les médecins. Donc très 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 vite, on oublie que la propreté est quelque chose d'important. Alors que c'était le cas effectivement pendant tout le Moyen-Âge, et ça n'est que autour du XVIIIe siècle, hein, avec Jean-Jacques Rousseau, avec toute cette idée de la nature, que surtout avec les exemples grecs et de l'Orient, qui arrivent de l'Orient, qu'on voit apparaître des salles de bain très très luxueuses, mais au départ chez des artistes, des danseuses, des comédiennes qui commandent une salle de bain en général extravagante à un architecte.
Georges Vigarello, quand on regarde l'histoire de la salle de bain, c'est bien sûr l'histoire de la conquête de la propreté, mais c'est aussi la conquête de l'intimité.
Oui, c'est la conquête d'un espace. C'est une question tout à fait intéressante parce qu'elle a une dimension psychologique. C'est la conquête de quelque chose qui va progressivement se fermer. N'oublions jamais que ce n'était pas... Les étuves, par exemple, c'est ouvert. Il y a les étuves, vous avez des gens qui se côtoient. Il y a une forme de ce que nous appellerions aujourd'hui une promiscuité qui n'était pas vécue sans doute sur le mode difficile, mais qu'aujourd'hui le serait. Et ce qui s'invente insensiblement, c'est un espace qui va se fermer, qui ne sera pas d'ailleurs d'abord la salle de bain, qui sera ce qu'on appelait le cabinet de toilette. C'est un lieu qui est généralement présenté sous forme d'alcôve, un peu dans le prolongement de la chambre, dans lequel se trouve une cuvette, un brow, et le lavage, à ce moment-là, il ne peut pas être total. Et d'ailleurs, de ce point de vue, c'est très intéressant parce que on a, si on s'intéresse entre ce qui est total et ce qui est partiel, on voit très bien qu'il y a une évolution historique qui va progressivement faire émerger une propreté qui sera locale. C'est ce que j'appelle, moi, le lavage partiel, et qui s'invente, lui, beaucoup plus tard, 17e, 18e, surtout 18e, avec une insistance sur laver les parties qui sont liées à la transpiration, les parties qui peuvent être odorantes, etc. Et donc là, il y a quelque chose, vous voyez, qui crée de la dynamique historique.
Monique Eleb.
Alors, le cabinet de toilette, effectivement, c'est près de la chambre, et peu à peu, on voit arriver des baignoires qui s'installent n'importe où, mais n'importe où, pas vraiment, parce que c'est proche des escaliers de service, puisqu'on achète des bains dans la rue, et on monte le bain et on descend le bain. Et donc, la baignoire est n'importe où. Donc, effectivement, vous avez raison, Monsieur Vigarello, de dire que ça met du temps à devenir une pièce, la salle de bain. Au départ, c'est la salle de bain en tant que telle n'arrive que très très tard, ou à la fin du 19e.
France Le Breton, cet apprentissage de l'intimité commence dès le plus jeune âge. On le verra tout au long de l'émission.
Oui, alors c'est vrai que les enfants, pour le bébé en tout cas, le bain est un moment très important de sa journée, et peu de mamans ou de papas ne lui... Ne, ne, enfin, lui donne le bain, forcément, une fois par jour. Et puis ensuite, ça devient, le bain devient vraiment un moment d'échange et de jeu avec les parents, en plus d'être un moment consacré à son hygiène. Et ça devient un moment très, très important et aussi un moment où on va commencer à apprendre la propreté et l'autonomie, au moins l'autonomie physique. Et ensuite, ça va évoluer vers une acquisition d'autonomie psychique quand on va aborder les rives de la préadolescence.
On y reviendra tout à l'heure. Questions, réactions, témoignages par courriel. Grand bien vous fasse à radiofrance.com, sur notre page Facebook et au standard de France Inter 01 45 24 7000. Et il est temps de retrouver celui qui aime méditer sous une douche tiède, Christophe André.
Chose vue.
Je suis votre thérapeute.
Christophe André.
Bonjour Christophe André.
Bonjour Ali.
Que vous inspire notre sujet du jour ?
Eh bien, notre sujet me fait penser à l'hôpital, figurez-vous, aux malades. Oui, aux malades et à leur corps qu'ils ont parfois du mal à laver et à l'aide qu'il faut alors leur apporter. Quand on va bien, quand notre corps est valide, évidemment, tout est simple et agréable. Nous bénéficions aujourd'hui de salles de bain qui sont un immense privilège par rapport à ceux dont disposaient nos ancêtres. Un immense privilège aussi par rapport à ce qui est accessible à la majorité des terriens actuellement. On est en Occident et nous sommes des vénards. Nous avons un endroit propre, doté d'eau chaude, d'eau froide, où on peut s'enfermer, se laver, se regarder dans un miroir. Nous sommes des gros vénards.
La fenêtre grande ouverte, devant les volets tirés, je cherche un coin de fraîcheur en attendant la nuit.
C'est une chanson qui de Charlie Couture, mais...
On se passe sous la douche, puis à poil devant la glace, on se trouve soudain beau, avec les cheveux mouillés, collés. Enfin bref, on se réinvente une pluie, mais à bonne température, comme des sorciers civilisés. On a envie de l'eau.
Voilà, une belle chanson de Charlie Couture sur les salles de bain, mais ça ne se passe pas comme ça quand on est malade, accidenté, handicapé, quand on ne peut même plus se lever et s'occuper de son corps. On est dans un lit d'hôpital et on doit renoncer à ces moments de soins de soi, on doit renoncer à son intimité. C'est très difficile de tout accepter en même temps. Accepter de se laisser regarder et toucher. Accepter qu'on voit son corps nu. Accepter d'être incapable de s'en occuper. Accepter de lâcher prise et de se faire laver des pieds à la tête. C'est une sacrée expérience que font alors les personnes malades, soudainement privées de l'autonomie et de l'intimité de la salle de bain. Cette expérience peut être un cauchemar si les soignants ne sont pas à la hauteur. Si les aides-soignantes et aides-soignants, puisque ce sont eux qui se chargent de la toilette des patients durablement ou transitoirement valide, s'ils ne respectent pas cet état de fragilité totale de la personne, si on garde la porte de la chambre grande ouverte pendant la toilette, si on laisse le corps nu inutilement découvert, si n'importe qui peut entrer et sortir à ce moment dans la chambre, alors il faut appeler les choses par leur nom, c'est de la maltraitance et de l'abus de pouvoir. Par contre, si les soignants sont respectueux, attentifs à respecter la pudeur du patient, s'ils dialoguent avec lui, alors cette expérience est émouvante et réconfortante sur la confiance que l'on peut accorder au genre humain. Et voir des soignants laver avec douceur et gentillesse le corps d'une personne en état de faiblesse est alors une image de ce que l'humanité a de meilleur. Et vous, cher Ali, toujours si élégant et propre sur vous, combien de temps passez-vous chaque matin dans votre salle de bain ?
Beaucoup, beaucoup trop de temps, mon cher Christophe André. Les choses vues de Christophe André, c'est tous les mardis dans Grand Bien vous fasse, une émission préparée par Alexia Rivière et Alice Jacquelin avec l'aide de Clara Marliot. La programmation musicale est signée Muriel Pérez et c'est réalisé par Claire Destacan. Gorillaz, Andromeda.
France Inter. Grand bien vous fasse.
10h25 et ce matin, en partenariat avec le quotidien La Croix, je vous propose d'explorer la salle de bain en compagnie de la spécialiste de l'habitat Monique Eleb et de l'historien Georges Vigarello et avec la complicité de France Le Breton de La Croix. Bonjour Martine, vous appelez de La Réunion.
Oui,
bienvenue.
Ça fonctionne, ça y est, il n'y a pas de souci.
Bienvenue dans l'émission.
Oui, bonjour,
bonjour
Ali.
Bonjour.
Oui, alors écoutez, moi je vous explique, eh bien, écoutez, je suis une jeune femme, va-t-on dire, allez, j'ai 50 ans. Je suis née en 1970, donc j'habitais en Normandie, à Argentan, et depuis, je n'ai jamais eu de salle de bain dans la maison, jusqu'à ce que je quitte la maison dans les années, tout début des années 80, et je montais tous les matins mon seau pour aller me doucher comme je pouvais. Et c'est vrai que ça a été des moments pas faciles parce que quand j'étais en pension, j'avais un peu honte. J'avais l'impression de ne pas me sentir très très propre et ça a été un peu une petite souffrance. Et puis quand je suis partie, mes parents ont fait la salle de bain.
Monique Eleb, c'est très intéressant ce que nous dit Martine.
Mais oui, d'abord la moitié du monde ou peut-être plus n'a pas de salle de bain. Et effectivement, les techniques ont été effectivement se laver à grande eau, se laver avec peu d'eau dans un tub avec une éponge. Enfin, il y a eu toute une série de techniques. Les enfants qu'on avait le dimanche dans la même bassine à plusieurs, enfin avec l'eau qui servait à plusieurs bains, ça a été une technique jusqu'à. En fait, il faut comprendre que la salle de bain n'arrive en France vraiment que très tard et en 50, il y a 6% de salles de bain en France. Donc il y a toute une partie de la population qui a encore le souvenir de la difficulté de se laver et puis ce problème aussi de l'intimité.
Georges Vigarello, vous nous racontiez hors antenne une anecdote qui concernait votre grand-mère.
Oui, en fait c'est une arrière-grand-mère. C'est une arrière-grand-mère qui avait une laverie. Et qui utilisait donc de l'eau de façon intense. Et elle avait un rez-de-chaussée qui comportait une succession de cuves pour évidemment faire son boulot. Et en revanche, son appartement, lui, n'avait pas de salle de bain. Vous voyez, donc il y a une présence de l'eau qui ne correspond pas nécessairement au fait de se laver. Mais ce que je voudrais ajouter, qui me paraît absolument fondamental, lorsqu'on fait l'histoire de ce genre de problème, ce que je voudrais ajouter, c'est que lorsque nous regardons le passé, nous avons évidemment tendance, par rapport à nos repères, nous avons tendance à penser que non seulement les individus des époques précédentes, hommes et femmes, étaient sales, mais qu'en plus ils se sentaient sales. Or, c'est une erreur historique majeure.
Ils ne se sentent pas sales.
Ils ne se sentaient évidemment pas sales. Au contraire. Chaque époque, ils sont. Mais ça, c'est fondamental. Sinon, on ne comprend pas.
Oui, tout à fait.
À chaque époque, ils sont absolument convaincus, non seulement d'être propres, mais d'être plus propres que les périodes précédentes. Par exemple, lorsque nous disons, au Moyen-Âge, il y a des étuves. Et ensuite, dans la France classique, il n'y a plus d'étuves, il n'y a plus de bains. Que disent ces gens-là? Un mot, excusez-moi, je finis ma phrase. Un mot, que disent ces gens-là? Je pense en particulier à Charles Perrault, qui écrit en 1686, à l'époque de Louis XIV, La querelle des anciens et des modernes. Donc il dit, les anciens, ils avaient des termes, ils se baignaient en permanence, les termes étaient un lieu de sociabilité, d'échange, c'était extraordinaire. Bon, et nous n'avons plus ça. L'eau cascade dans le Versailles de la fin du XVIIe, mais nous ne le disons pas. Pourquoi? Mais tout simplement parce que nous avons du linge. Et ce que dit Charles Perrault, c'est la chose suivante, le linge vaut tous les bains du monde. Donc vous voyez, quand nous réfléchissons à cette question, il faut absolument prendre en compte le fait que, lorsque nous regardons en arrière, évidemment, la propreté, à nos yeux, n'existe pas, mais à leurs yeux, et ça c'est fondamental, elle existe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un siècle, nous en apparaîtrons sales. Et c'est ça qui est fondamental.
Martine, est-ce que vous vous sentiez sale par le fait que vous n'ayez pas de salle de bain pendant un long moment de votre vie?
Tout à fait. Écoutez, je vous dis, j'ai 50 ans, donc je suis encore très jeune, entre guillemets. Mais le fait est, c'est que quand j'allais en pension et que j'avais des jeunes filles qui étaient déjà habillées très bien, alors que mes parents étaient aisés quand même, papa avait une entreprise de maçonnerie, donc on n'avait aucun souci quant à la finance. Mais je me sentais sale, oui, je vous avoue, je me sentais sale. C'est un réflexe. Bon, maintenant, j'habite l'île de la Réunion et j'ai une baignoire et une j'en suis ravie. Mais je ne prends pas de bain. C'est très particulier parce que je ne prends pas de bain. Je prends des douches. Mais j'ai toujours ce réflexe. Oui, je me sens toujours sale. C'est un peu particulier. Et quand j'ai des malaises, par exemple, eh bien, j'ai tendance à prendre un gant avec de l'eau de Cologne, comme on faisait le matin quand on partait à l'école et qu'il faisait trop froid en Normandie et qu'on pouvait pas prendre, on pouvait pas se laver vraiment parce qu'on n'avait pas de chauffage à la maison, et que les vitres étaient couvertes de givre et que je dormais avec une brique dans le lit. Je vous avoue que j'ai toujours ce réflexe quand je ne suis pas bien. Maintenant, de prendre un gant avec de l'eau de Cologne, c'est un vieux réflexe. Mais c'est vrai qu'étant jeune, j'avais cette sensibilité et j'avais honte de ne pas me sentir. J'avais l'impression de me sentir sale.
Alors, Georges Vidarello. Mais...
Non, votre interlocutrice dit quelque chose de très important qui risque d'être en contradiction à ce que je disais tout à l'heure. Je crois qu'il y a une autre différence, évidemment, c'est la différence sociale. Évidemment, la différence sociale, lorsque des gens sentent qu'il y a des pratiques qui apparaissent comme très évoluées et que eux sont dans d'autres pratiques, bien sûr, la différence existe. Mais c'est autre chose que la question historique, c'est une question sociale.
Merci beaucoup Martine de nous avoir appelé. Alors vous ne prenez pas de douche, mais vous avez la chance de prendre des bains de mer à La Réunion. Bonne journée à vous. Martine, Monique Eleb, c'est à partir du 19e siècle qu'on commence à relier santé et propreté sous l'influence de Pasteur. La propreté se légitime par la science ?
Oui, parce qu'en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, l'idée que l'eau était dangereuse était une idée très très banalisée. Et on commence à comprendre avec Pasteur que effectivement il y a des microbes et donc l'eau, on commence à faire bouillir l'eau et on se méfie beaucoup moins de l'eau. Donc ça joue un rôle dans la possibilité de prendre des douches ou des bains et tous les modèles extérieurs vont faire que on se pose la question de qu'est-ce qui est meilleur pour la France, enfin pour l'équipement français, la douche ou le bain. Et on se rend compte que effectivement la douche va être plus facile à instaurer et on va proposer dans les fondations philanthropiques, dans l'habitat par exemple des ouvriers autour de 1880-90, on fait de très grands bains douches au rez-de-chaussée avec alors c'est là qu'apparaît la division avec des douches pour les hommes et des baignoires pour les femmes et les enfants.
Georges Vigarello, à partir du 19e siècle, être propre, c'est protéger et renforcer son corps. Il faut se laver pour mieux le défendre.
Alors, c'est une idée, en fait, de la fin du 18e. Une idée des Lumières, si vous voulez. Idée selon laquelle la vision du corps a changé. Idée selon laquelle le corps est fait de fibres. Et donc, le froid peut entraîner le fait que ces fibres se durcissent et en fait de retrouver de la propreté, c'est aussi retrouver de la vigueur. Vous voyez, là, il y a une image nouvelle. Moi, j'ajouterais, je suis tout à fait d'accord, évidemment, avec ce que disait Madame Eleb tout à l'heure, sur le fait que là, il y a une convergence forte au 19e entre la propreté et l'hygiène. Mais en même temps, ce qui traverse en quelque sorte notre histoire, c'est aussi la question de la sensibilité. C'est-à-dire que il y a une façon de s'éprouver autre une fois que la transpiration a disparu. Et je pense toujours à cette phrase de Montaigne, qui écrit à la fin du 16e siècle, qui dit « Je ne supporte pas de garder la même chemise lorsque je suis transpiré. » Vous voyez, ça c'est une transformation de la sensibilité. Et je trouve que l'histoire de la propreté croise deux choses. À la fois l'hygiène dont nous venons de parler, dont nous venons de très bien parler, et en même temps la sensibilité qui est autre chose. Et qui va aboutir à une donnée qui est quoi ? Psychologique.
Monique Eleb, sous l'influence des politiques hygiénistes, la propreté devient un synonyme de l'ordre et une attention particulière est portée sur les classes populaires.
Oui, c'est-à-dire que la femme va devenir responsable, enfin la mère, puisqu'elle est définie comme ça. Elle va devenir responsable de la propreté des enfants, on surveille les mains des enfants à l'école, il y a tout un système qui se met en place pour la rendre responsable et coupable si les enfants ne sont pas propres. Et donc, elle devient le centre de toutes les lois, d'une certaine façon, de toutes les réglementations. C'est-à-dire qu'elle est celle qui va faire régner l'ordre. celle qui va faire d'ailleurs aussi que son mari ne va pas au café en sortant de l'usine, etc. Donc en fait, il y a toute une imagerie, une représentation de la femme autour de cette idée de propreté et qui touche la morale, évidemment.
France Le Breton, de la Croix.
Oui, je crois que la mère porte encore cette responsabilité de la propreté familiale, même si bien entendu, il y a un partage des tâches et les pères donnent le bain, etc. Mais parfois, elle a du mal à lâcher, d'ailleurs, cette prérogative. Mmh. Elle a tendance parfois à intervenir longtemps dans la toilette des enfants. Et à l'inverse, il y a aussi des mères qui veulent que leur enfant soit autonome trop tôt. Enfin, elles veulent qu'il se lave tout seul trop tôt. Et c'est peut-être un petit peu dommage aussi. Enfin, il faut essayer de respecter un équilibre et puis surtout de sentir quand l'enfant a peut-être aussi besoin de cette intimité. Et ça peut venir même avant la préadolescence. Ça peut venir vers 8-9 ans et il faut être à l'écoute.
Jean Vigarillo, c'est par le biais des femmes que se démocratise à partir de la Seconde Guerre mondiale et dans les années 50, se démocratise la toilette quotidienne.
Moi, je pense que ce qui vient d'être dit est quand même très important. Ce qui vient d'être dit, c'est d'abord l'apprentissage de l'intimité à travers sa propre histoire individuelle. Et nous, tout à l'heure, nous parlions de l'apprentissage de l'intimité à travers l'histoire globale. Oui, le rôle des femmes est absolument central, bien entendu. Parce que ce que l'on oublie quand même, c'est qu'il y a un croisement qui est très important et qui est celui de la propreté, de la coquetterie. Vous voyez, je dis ça avec le sourire, mais c'est vrai. Le port du linge, le linge blanc, la dentelle, tout ça, ce sont des données qui vont dans le sens du féminin. Et c'est clair que le féminin, du coup, a tendance à privilégier la propreté plus fortement que ne pourrait le faire le masculin.
Monique Eleb.
D'ailleurs, les premières salles de bain meublées, les premières salles de bain étaient meublées avant que l'eau n'arrive. Elles étaient meublées et il y avait des tulles. On cachait tout ce qui n'était pas tout ce qui n'était pas beau, on cachait aussi toute l'intimité. Il y avait des bassines, des bidets, mais on les cachait. Et en fait, quand la salle de bain américaine arrive, celle qu'on a aujourd'hui, c'est la salle de bain américaine.
C'est quoi la salle de bain américaine?
Ben, c'est la nôtre. C'est la salle de bain carrelée, très propre, hygiénique, avec tous les tuyaux apparents, mais au départ, puis après qu'on cache, et qui est pour les Français une horreur. Quand elle arrive en 1900 à une exposition, on se dit, mais c'est pas possible, jamais une femme pourra sortir de là pour aller à une fête, elle pourra faire du sport, mais certainement pas aller à une fête. Donc il y a l'idée de la féminité liée au cabinet de toilette d'abord et à la salle de bain après. Et cette rupture avec la coquetterie, en fait, va entraîner que la salle de bain va devenir un lieu mixte, alors qu'avant, le cabinet de toilette était un lieu féminin. Donc cette rupture est très très importante. Mais il y a une autre rupture quand même. C'est l'idée qu'en France, on a quand même renoncé au bain régénérant. On a renoncé au bain détente pour démocratiser, pour que tout le monde ait accès au bain, à la propreté liée à l'eau. On a renoncé au bain régénérant. Mais ça revient, puisqu'on voit aujourd'hui les baignoires à bains bouillonnants, les jacuzzis, les spas dans la maison. Et en fait...
ça ne concerne qu'une minorité de Français.
Ça concerne, alors j'allais le dire, ça concerne une minorité de Français.
Extrême minorité.
Oui, non. Pas tant que ça, parce que justement...
une idée reçue, ça, alors.
C'est une idée reçue. C'est une idée reçue parce qu'il y a beaucoup de baignoires âgées aujourd'hui. Et en fait, cette histoire de bain ou douche n'est pas réglée, du tout.
D'ailleurs, autour de la table, vous êtes plutôt bain ou douche, Monique Eleb?
Moi, les deux.
Georges Vigarillo.
Mais moi, je pense que c'est une question beaucoup plus importante, on ne le croit.
Mais je sais.
Très bien. C'est génial. Non, c'est plus important qu'on ne le croit, parce qu'en fait, ça renvoie à quoi? Ça renvoie au fait qu'il existe plusieurs régimes de l'eau. Historiquement aussi, en fait, quand l'eau commence à revenir un petit peu dans les immeubles, etc., c'est l'eau froide qui l'emporte, dans la mesure où c'est l'eau froide qui durcit, etc. Et on craint un petit peu l'eau chaude qui ramollit. Vous savez, cette histoire de Balzac, je trouve magnifique. Balzac doit rendre des romans quasiment au mois près. Et donc, dans une de ses lettres, il dit « Il faut que je rende absolument le roman, et si je me baigne, eh bien, je m'affaiblis, donc je ne vais pas me baigner. » Vous voyez, il y a quand même plusieurs régimes de l'eau. Et je pense, pour revenir à votre question et y répondre, je pense que la douche Et le bain renvoie à deux régimes de l'eau. La douche, elle a un aspect plutôt hygiénique, c'est vrai qu'elle peut détendre, c'est vrai que dans d'autres cas elle peut renforcer, mais elle est quand même assez fortement centrée sur le fait de se débarrasser en quelque sorte du sale. Alors que le bain, c'est au contraire le lieu de la détente. C'est très frappant de voir le tableau de Bonnard. Bonnard invente dans ses fameuses, vous savez, ses représentations de femmes allongées à l'horizontale comme ça. Il invente quelque chose qui est neuf, qui est l'eau dans laquelle on peut totalement s'abandonner, avec un côté fondamentalement psychologique. Donc, qu'est-ce que c'est aussi que l'histoire de la propreté ? C'est le passage d'un recours à l'eau qui est un recours technique, un recours à l'eau qui est de plus en plus psychologique.
Vous savez, il existe, Georges Vigarello, des douches qui détendent avec des jets multiples qui...
Je n'en doute pas, je crois que vous savez tout.
Christophe André. Moi, j'avais été frappé lors d'un voyage au Japon de voir les baignoires collectives où on ne rentre qu'une fois qu'on est propre. On se lave et puis on va prendre le bain qui a une autre fonction qu'une fonction.
Mais il y a aussi cette idée, vous savez, à la fin du 19e, lorsque les baignoires commencent à devenir un peu plus communes, il y a cette idée selon laquelle si vous séjournez dans la baignoire, vous séjournez dans vos propres bacilles. Donc, lorsque vous sortez, prenez une douche.
François Breton.
Et puis, il y a aussi la tristesse de l'enfant qui doit passer du bain à la douche un jour, à un certain âge. Et bon, c'est là où ça devient plus compliqué après de le faire se laver.
Allez, nous attendons vos questions, témoignages. 01 45 24 7000. Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Ah, girl. Girl, girl. When I think of all the times I've tried so hard to leave her, she will turn to me and start to cry. And she promises the earth to me and I believe her. After all this time I don't know why. Ah, girl. Girl, girl. She's the kind of girl who puts you down when friends are there you feel a fool. Say she's looking good, she acts as if it's understood, she's cool. Ooh, 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 girl. Girl, girl. Was she told when she was young that pain would lead to pleasure? Did she understand it when they said that a man must break his back to earn his day of leisure? Will she still believe it when he's dead? Ah, girl. Girl, girl. Les Beatles, Girl.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
Et ce matin, en partenariat avec le quotidien La Croix, je vous propose d'explorer la salle de bain en compagnie de la spécialiste de l'habitat Monique Eleb et du grand historien Georges Vigarello, et avec la complicité de France Le Breton de La Croix. Bonjour Marc.
Bonjour.
Vous appelez de Haute-Savoie, où exactement ?
Saint-Julien-Genevois.
Alors vous Marc, vous avez connu les bains publics avec votre grand-mère.
Exactement, mais c'est un souvenir qui remonte plus en Bretagne, à Vitré. Mmh. J'ai 48 ans et je devais avoir 6 ou 7 ans. Mes parents me laissaient en vacances donc à Vitré, donc chez ma grand-mère où il n'y avait pas de salle de bain. C'était ce qu'on appelait communément une petite toilette de chat. Et votre émission m'a fait réagir parce qu'effectivement, ça m'a remémoré ce matin des souvenirs assez délicieux d'aller avec ma grand-mère au bain public.
Alors voilà. Comment ça se passait, cette visite au bain public? C'était hebdomadaire?
C'était hebdomadaire. En règle générale, c'était le samedi parce que le dimanche, il y avait la messe. Hein. Mm-hmm. C'était quand même, fallait arriver tout beau, tout propre. Et le samedi, c'était effectivement bain public avec la grand-mère. Donc il y en avait. Enfin, moi, je sais qu'il était juste à côté chez ma grand-mère, donc on y allait à pied. Puis c'était franchement un souvenir vraiment délicieux.
Voilà, et pourquoi c'était délicieux, Marc?
Eh ben, justement, la douche après cette toilette dans la bassine, parce qu'il n'y avait pas de salle de bain, c'était dans la cuisine. Et ça corroborait vos propos sur le fait que ce soit quand même un petit peu gênant. Moi, mes parents habitaient Paris, donc on avait une salle de bain. Et j'allais dire, l'immersion bretonne sans salle de bain, c'était un petit peu... C'était quand même Koh-Lanta, quoi, avant l'heure. Hein.
Merci Marc pour votre témoignage. Merci beaucoup. Bonjour Odile.
Bonjour.
Vous appelez de Talence, en Gironde. Bienvenue.
Bien, merci de avoir pris mon appel.
Alors vous êtes un peu étonné par une mode qui vous agace un petit peu, je crois.
Alors agacé qui m'étonne en tout cas, et comme il y a des spécialistes, ça m'intéressait d'avoir leur vision. Moi j'ai 3 enfants que j'ai élevés avec une seule salle de bain qui était assez agréable d'ailleurs, hein, 9 mètres carrés. Nous cherchons à nous reloger, donc nous choisissons une maison plus petite. J'ai visité une maison dans laquelle il y avait 3 chambres et au milieu une très petite salle de bain. Elle devait faire 4 ou 5 mètres carrés. Et malgré tout, l'architecte qui avait été mandaté par l'agent immobilier avait fait une simulation qui, sur l'empiètement de ces 5 mètres carrés de salle de bain, permettait qu'il y ait une entrée pour une salle de bain pour 2 chambres, les chambres d'enfants, et une entrée par la chambre des parents pour une douche supplémentaire. Et il annonçait ça comme une suite parentale.
Ah oui, la fameuse suite parentale.
La fameuse. Et donc, ça m'étonne, que ce soit si à la mode qu'il y ait la salle de bain des enfants, la salle de bain des parents.
Monique Hélène.
Alors, c'est d'abord, même dans le logement social, au-dessus de 3 enfants, on a 2 salles de bain, théoriquement. Donc, une pour les parents et une pour les enfants. Qui est effectivement le rêve de beaucoup. Dès qu'on a des enfants qui grandissent, on rêve d'avoir une salle de bain autonome pour les adolescents. Ça, c'est une évidence. Mais surtout, cette idée de suite parentale, elle vient directement de l'appartement. L'appartement au XVIIIe siècle, c'était, ou même avant, au XVIIe, c'était la chambre et ses annexes. Et aujourd'hui, on retrouve ça dans l'idée de suite parentale. Il faut savoir aussi que l'idée de parents et de parents et de chambres des parents liées à une salle de bain, c'est quand même une invention du 19e siècle, puisqu'avant on était des maîtres de maison ou on était des habitants, on n'était pas des parents. Et l'idée au 19e siècle arrive, l'idée qu'on est d'abord des parents. Voilà, c'est très important dans l'histoire.
France Le Breton, il faut rappeler, vous le disiez tout à l'heure, que la salle de bain, c'est aussi le lieu où l'enfant apprend l'intimité au fil des années, un désir d'intimité et d'autonomie qui s'exacerbe à la préadolescence.
Oui, tout à fait. Ça, quand on sort de l'enfance, on a envie de, on grandit et on va avoir besoin de plus de temps pour soi et on a surtout besoin d'être seul dans la salle de bain, soustrait au regard des parents, ce que les parents ne comprennent pas toujours tout de suite. Et on va commencer à prendre la pause, à se regarder dans le miroir, à tester des produits. Il y a un produit qui marque l'entrée dans la préadolescence ou l'adolescence, c'est le déodorant. C'est vraiment un produit symbolique. Et ensuite, il faudra respecter cette intimité, en effet.
Et oui, Odile, à partir d'un certain âge, les adultes s'interdisent d'entrer dans la salle de bain pour laisser leur enfant, leur adolescent tranquille. On peut peut-être comprendre le fait qu'il y ait 2 salles de bain dans un appartement ou dans une maison.
Oui, ça me paraît quand même être l'idée d'une forme de luxe qui passe par donc cet espace-là, parce que donc nous avons eu donc 3 enfants qui maintenant sont des jeunes adultes. Nous n'avons jamais imaginé autre chose que de leur permettre d'avoir de l'intimité dans cette salle de bain commune. La porte était fermée, ils y étaient de longues heures d'ailleurs, quelquefois en effet, ils y passaient beaucoup de temps. Et ça ne nous paraissait pas indispensable que nous, nous ayons notre propre espace. C'est une question aussi d'organisation.
Merci beaucoup, Odile, de nous avoir appelé de Talence. Georges Vigarello, petite question par courriel. D'où vient la réputation de saleté des Français ? Je veux juste citer une étude de 2010 qui porte sur 7000 personnes dans 8 pays occidentaux. 97% des Françaises se sentent mal à l'aise en société quand elles ne se sont pas lavées les mains ou les dents, et 94% quand elles ne se sont pas douchées. Donc d'où vient cette réputation ?
C'est quand même le signe.
Oui, exactement.
Voilà. Non, je pense que...
C'est un vieux cliché.
C'est toujours le problème de clichés, de vulgates, de compétition entre des nations. Certaines nations qui sont techniquement avancées, je pense aux Anglais par rapport aux Français, essaient de transposer leur avance en l'apportant aussi sur les mœurs, et en particulier sur des questions du propre et du sale. Mais il est bien évident que, à mon avis, les pays européens sont parfaitement dans la même type de dynamique. En gros, ce que je veux souligner, qui me paraît très important dans ce qui était dit, c'est que cette problématique-là du propre, c'est aussi quelque chose qui passe par la conquête de l'intime. C'est le fait que nos sociétés s'individualisent et donc recherchent des lieux qui sont ceux où l'individu peut exister pleinement. C'est très important, cela.
Monique Eleb, si l'un de nos amis ou collègues nous révélait qui ou elle ne se douchait qu'une fois par semaine, notre jugement tomberait comme un couperet.
Oui, c'est évident.
On associe aujourd'hui propreté, saleté et jugement moral de façon très forte.
Mais nous, on l'a longtemps, et depuis longtemps, on a associé propreté et morale. Et c'est peut-être aussi dans la dissociation qu'on a réussi à faire qu'on est libre devant les choix qu'on a. Alors, c'est vrai que je jugerais mal quelqu'un qui ne se lave qu'une fois par semaine, c'est certain. Parce qu'aujourd'hui, la règle, c'est de se doucher tous les jours. En même temps, je voudrais rajouter quelque chose. La règle, c'est de se doucher tous les jours, mais de prendre aussi un bain pour la détente dans une société où la plupart des gens sont très, très stressés, en fait.
Georges Vigarello.
Et donc ça renvoie bien à deux types de régimes de l'eau, vous voyez.
Ouais.
Et alors dans la même dynamique, on voit très bien que les textes, par exemple, disaient baignez-vous une fois par semaine et ça suffit amplement à la fin du 19e siècle. Ça a considérablement progressé. Mais dans la même dynamique, moi je suis très sensible à cela. On dit une douche par jour, mais bientôt ça sera deux, et bientôt ça sera trois. Et d'ailleurs pour beaucoup d'entre nous, c'est deux, une fois le matin, une fois le soir. Et en même temps, je continue d'insister sur le fait qu'il y a cet aspect de plus en plus psychologique, à la fois de l'eau et de la salle de bain, qui est un lieu d'intimité. Et n'oublions jamais que la salle de bain va différencier les fonctions pour lesquelles elle est destinée. C'est-à-dire que les individus aussi, ils ont progressivement leur fauteuil de relax, le miroir sur lequel ils peuvent s'intéresser de façon très précise à leur visage, etc. Ne l'oublions pas, c'est très important, l'intimité.
Bonjour Marie-Claude.
Oui, bonjour.
Vous appelez de Chambéry, bienvenue.
Oui, merci. Merci à vos émissions.
Merci.
Alors, je vous signalais que j'ai entendu sur France Inter il y a peu de temps une émission. Alors, je ne me rappelle plus, j'ai dû la prendre en cours. C'est un monsieur qui témoignait d'expériences qu'il est en train de faire. Il ne s'était pas lavé pendant un mois, voire un peu plus, mais il avait changé régulièrement ses vêtements. Et je suppose qu'en buvant suffisamment pour pas concentrer, il y aurait au niveau de la peau un équilibre qui se fait sur le plan équilibre microbiote, etc., et qu'il ne sentait pas mauvais.
Christophe André, envie de vous répondre.
Oui, il y a tout un courant, effectivement, qui, pour des raisons écologiques, en disant qu'on surconsomme de l'eau à cause de notre obsession de l'hygiène et du confort, et pour des raisons médicales, dit que finalement, ce n'est pas si indispensable que ça, et qu'on décape parfois notre peau à trop la doucher et la savonner, effectivement.
Et donc, refuser de se laver, être sale, ça révèle un trouble psychique ou pas ? Je m'adresse au psychiatre.
Dans certains cas, oui, mais dans d'autres cas, comme celui que souligne Marie-Claude, ça peut être un choix écologique et puis aussi un test.
Merci beaucoup Marie-Claude de nous avoir appelé de Chambéry.
Oh, il m'énerve, je suis
plus. Jean ! Ouais ?
Tu peux venir s'il te plaît ?
Qu'est-ce qu'il y a ?
Tu as pris une douche ?
Ouais ?
Tu t'es lavé les cheveux ?
Ouais ?
Ouais. C'est quoi ça ? J'en ai ras-le-bol ! J'arrête pas de te le dire, pourquoi tu rases pas ta douche ? C'est dégueulasse pour les gens qui passent derrière ! Merde, Jean !
Il y a des cheveux partout ?
Bah oui, il y a des cheveux partout !
C'est une catastrophe !
C'est dégueulasse, oui !
Bah attends, je vais faire ce qu'il faut, t'en fais pas hein.
Tu vas rincer !
Non, je te parle pas de ça ! C'est tous les cheveux qui sont dans la douche, là, devraient être sur ma tête ! C'est ça le problème, tu vois ? Je me déplume.
Eh, y a pas que les cheveux, hein, y a les poils aussi, hein !
Un extrait d'Un gars, une fille avec Jean Dujardin, Alexandra Lamy, qui laisse pensif Georges Vigarello. C'est le lieu de tous les conflits quand même.
Mais c'est à la fois le lieu de tous les conflits.
Vous voyez en bien famille, en couple.
C'était très bien dit par Madame Hebel tout à l'heure. C'est à la fois le lieu de tous les conflits, mais c'est aussi le lieu où, je dirais, explosent les reproches de vulgarité, les reproches de dénonciation morale, etc.
Quelles sont, Monique Leb, les grandes règles à respecter en couple, en famille ou encore dans les familles recomposées en matière de gestion de la salle de bain?
Mais il y a de la règle, justement, se donner une règle. Parce qu'effectivement, dans les familles recomposées, il y a des grands aînés, il y a deux aînés parfois, etc. Donc c'est très difficile, effectivement, d'arriver à jouer. Et c'est vrai que les deux salles de bain règlent souvent les questions, hein, donc, mais on n'y est pas tous, on n'y est pas encore en France, mais on y sera, théoriquement.
France Le Breton.
Oui, bah écoutez, c'est à peu près oui ce qu'on vous dites dans notre dossier, hein, sur ces règles où se pose le problème de l'intimité, du manque de place, du partage, et donc ça nous amène aussi à imaginer la salle de bain du futur avec salon de bain, comme vous disiez, où oui. L'on peut à la fois s'occuper des enfants et s'occuper de soi.
Voilà, le salon de bain est le rêve des Français, évidemment. C'est un lieu où on pourrait faire une petite gymnastique, où on pourrait s'allonger.
Parce qu'il faut le dire, Monique Leb, pour terminer, la salle de bain correspond assez peu à celle de nos rêves.
Ah oui,
il y a un gros décalage entre la réalité et le rêve, Georges.
Mais le fait qu'elle soit un lieu de rêve est magnifique. Mmh.
Belle conclusion, Georges Vigarello. Merci d'être venu ce matin. Je rappelle que vous avez publié en poche Le propre et le sale, dernier ouvrage paru, Histoire des émotions au seuil, avec Alain Corbin et Jean-Jacques Courtine. Merci Monique Leb. Sans un mot de l'habitat pour tous, c'est publié chez Archibook. Merci France Le Breton, votre papier dans La Croix.
Et demain.
C'est demain dans ce quotidien qu'on aime beaucoup dans cette émission. À suivre tout de suite l'intervention de Sabrina Nadjar de Femme Actuelle. Rebonjour Sabrina Nadjar.
Rebonjour Ali.
Cette semaine, dans Femme Actuelle, débat brûlant, pour ou contre le statut de première dame.
Exactement, c'est une proposition qui fait débat parce que, à l'image de la First Lady américaine, Emmanuel Macron a envisagé de créer un statut officiel de première dame pour son épouse Brigitte. Alors, une fonction qui ne serait pas à la charge des contribuables, mais qui lui permettrait de légitimer ses actions en toute transparence. Alors, il faut savoir que cette proposition fait débat, notamment chez les Français, qui sont 68% à être contre, selon un dernier sondage YouGov.
Et quels sont les arguments pour et contre ?
Alors, nous avons interrogé des spécialistes de la politique pour y voir plus clair, notamment Nicole Bacharan, politologue, qui elle est pour. Alors, elle estime que de ce fait, les épouses des présidents ont toutes joué un rôle, sinon de conseillères, du moins de représentation. Et créer un statut aurait le mérite de clarifier les choses, à condition de leur accorder un budget qui soit voté et contrôlé évidemment par les députés, ce qui éviterait évidemment les conflits d'intérêts, comme ce fut le cas avec Valérie Tréhaveller, qui souhaitait conserver son poste de journaliste, ou les polémiques qui ont été autour du financement des activités de Carla Bruni et de sa fondation. Alors, de son côté, Armelle Lebras-Chopard, professeure de philosophie politique, est, elle, contre. Elle considère en effet que l'épouse du président n'ayant pas été élue, elle ne peut donc avoir d'existence officielle avec un cadre qui définirait ses missions. Ces activités, selon elle, doivent rester un engagement individuel, d'autant que cela pourrait créer des contraintes que la First Lady n'aurait pas forcément envie de respecter. Et que se passerait-il, Ali, aussi, si le président changeait de première dame ? Ou qu'à l'instar de Danielle Mitterrand, celle-ci ait des positions différentes de celles de son mari ?
Voilà, Votre avis, Sabrina ?
Écoutez, mon avis n'intéresse que moi, j'ai envie de vous dire.
Mais vous le donnez quand même
je trouve qu'il serait préférable, effectivement, de lui donner un statut définissant ses prérogatives et son budget. Et puis, en tout état de cause, se pose la question du terme. Le terme de conjoint conviendrait mieux que première dame. Sinon, que dirait-on, Ali, le jour où une femme deviendrait présidente?
Le regard rapide de Georges Vigarello, de l'historien, sur cette question-là. Rapide.
Oui, vraiment, c'est très difficile. Moi, je pense qu'effectivement, le problème de l'élection est central et qu'elle n'est pas élue.
Allez, à la technique, merci beaucoup Sabrina Nadjar. Deux femmes actuelles, un papier à lire dans le numéro de cette semaine. À la technique ce matin, Alice Berger et Eric Morin. Demain, on se demande comment se réinventent les hypermarchés. Continuez-vous à faire vos courses dans les grandes surfaces. Aimez-vous fréquenter ces temples de la consommation. Grand bien vous fasse à radiofrance.com.